Le loto du patrimoine, je veux bien, 15 à 20 millions pour des monuments en péril, même si évidemment c'est assez dérisoire comme somme, même si d'aucuns pourraient y voir une opération de com', même si on rechigne toujours, c'est vrai, à chiffrer, à évaluer, à monnayer la culture et le patrimoine, c'est quand même pour la bonne cause le loto du patrimoine. Et n'oublions pas que le loto fait lui-même partie du patrimoine et qu'il dit beaucoup de notre culture, de nos valeurs, de nos identités. La scène de loto, on la trouve partout en littérature, même chez Balzac, figurez-vous, qui en fait le lieu d'une cruauté inouïe et d'une tragique comédie dont Eugénie Grandet. Souvenez-vous, on l'a tous lu au collège ou au lycée, pour les 23 ans d'Eugénie, un jeu est organisé, tous les invités sont munis de cartons bariolés, chiffrés, de jetons en verre bleu, et tous, sauf elle, pensent au million de son père, Monsieur Grandet. Ils sont tous là, les nobles, les bourgeois, le président, l'abbé, le notaire, et ils ne pensent qu'à ça. Balzac a ses phrases terribles, n'est-ce pas une scène de tous les temps et de tous les lieux, ramenée à sa plus simple expression, n'est-ce pas le seul dieu moderne auquel on ait foi, l'argent dans toute sa puissance exprimé par une seule physionomie, affreuse condition de l'homme.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Si mon invité d'aujourd'hui fait partie, lui aussi, du patrimoine, est-il pour autant déjà arrivé de remplir une grille de loto ou de gratter un jeu? Il dirige depuis 30 ans la plus prestigieuse des maisons d'édition françaises, maison familiale, fondée par son grand-père et dont il perpétue et fructifie l'héritage depuis 30 ans. Bonjour Antoine Gallimard.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes plutôt loto, banco ou astro? Et celle-là, c'est à l'éditeur que je parle, évidemment, à l'homme d'affaires.
Oui, moi, je pense que je serais plutôt loto.
C'est une bonne chose pour vous, le loto du patrimoine?
Écoute, moi, en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que d'une part, le patrimoine, ça existe. On peut être, je pense que pour faire des choses nouvelles, des belles choses, il faut aussi s'appuyer sur un patrimoine. Il n'y a aucune raison de détruire le patrimoine. Et on voit bien tous les terroristes, tous les fascisants de notre époque détruisent le patrimoine. Donc, raison de plus pour s'y intéresser. Et là, j'ai été choqué qu'effectivement, des associations antiracistes demandent au président de la République de retirer de la liste du loto du patrimoine qui est organisé par Stéphane Bern de retirer l'idée qu'on puisse restaurer la maison de Pierre Loti. Ah oui. au nom de propos que Pierre Loti a tenu et qu'on peut voir dans ses textes
racistes et antisémites.
Raciste, antisémite, parce qu'il était dans la Turcomanie et donc il a eu des propos de l'époque qu'il faudrait restaurer, qu'il faudrait relire contre les Arméniens et puis contre les Juifs, mais je pense que ces propos ont besoin d'être mis dans son contexte et doivent être vus à l'aune de ce qui se passait à l'époque. Je ne pense pas que, au nom de cela, il faut retirer de la liste du loto du patrimoine Loti. Je pense que c'est une époque qui est extrêmement dangereuse, où il faut se méfier justement de tout ce qui peut être enclin à rejeter l'autre et ne plus voir ce qu'on fait.
C'est aussi une question, Antoine Gallimard, qu'on a beaucoup entendu ces temps-ci, et pas seulement dans le domaine littéraire, celle de savoir si on peut séparer l'œuvre de l'homme. Comment vous y répondez-vous à cette question, vous qui vous l'êtes forcément posée cette année?
Oui, je me la suis posée notamment à propos de la publication ou pas des pamphlets de Céline.
Pamphlets antisémites.
Des pamphlets antisémites. C'est des pamphlets à la fois polémique et antisémite, parce que dans les pamphlets, il y a des pamphlets terribles, je n'approuve pas du tout le fond de ces pensées, bien évidemment, mais c'est aussi des pamphlets sur les Anglais et sur les communistes. Je pense que surtout, il y a un homme, il y a une œuvre, et il y a une œuvre aussi qui a un côté sombre et un autre côté.
Vous êtes favorable à la réédition, hein?
Moi, je suis favorable pour publier un certain nombre de choses. La loi est là. Je suis contre tout ce qui peut être injure à la personne, injure, mais en même temps, je pense qu'il faut publier les choses et il faut pouvoir avoir une approche précise, réfléchie sur les choses. Oui, je suis pour une publication. J'ai pour l'instant suspendu ce projet de publication par respect pour les familles qui avaient eu des parents disparus en camp et pour respect pour la douleur. Mais je regrette en même temps que je n'ai pas eu le temps de présenter l'édition que je voulais faire, qui était une édition, qui serait une édition, et qui j'espère un jour avoir le temps de le faire, justement, sans blesser personne, une édition historique, littéraire, de ces pamphlets.
Ça pose quand même des questions assez passionnantes sur le rôle et la responsabilité de l'éditeur. Quelle conception est-ce que vous avez, vous, de votre responsabilité? Quelle est-elle, en fait, cette responsabilité?
Je pense qu'on a une responsabilité à tout niveau. À la fois, je pense que un éditeur, il doit pouvoir publier des choses qui dérangent. Par exemple, moi je suis heureux d'avoir pu publier Sad en Pléiade, comme mon père a eu le courage de publier Céline en Pléiade. Et ça n'a pas été... Bon, je pense que ça a été plus difficile de publier Céline en Pléiade que Sad. Mais il faut savoir toujours flirter avec les choses un peu difficiles, publier des choses qu'on n'attend pas.
Pour réactiver la liberté,
pour réactivité,
en fait.
Gide dit, il faut savoir se préserver de son temps pour préserver sa liberté de penser.
C'est intéressant que vous citiez votre père Antoine Gallimard, parce que cette responsabilité, elle est aussi familiale. Elle répond à un héritage, à une tradition, à des valeurs que vous perpétuez. Qu'est-ce qu'ils en auraient dit, à votre avis, votre grand-père et votre père, de toutes ces polémiques autour de l'homme et l'œuvre, sur la maison de Pierre Loti, mais surtout sur Céline ?
Je pense que, si vous voulez, par exemple, c'est intéressant, quand Céline a été publiée au départ par les éditions de Noël, c'est pas la maison Gallimard aussi qui a publié les textes antisémites et polémiques, mais et Céline avait demandé interdiction. Bon, là, aujourd'hui, je pense que l'idée toujours d'aller un peu plus loin, ils auraient été pour. Je pense que c'est Malraux même qui souhaitait qu'on republie voilà Céline. Je pense que tout ce qui est contre la censure, pour la liberté publiée, est essentiel. Aujourd'hui, vous voyez, ce qui me frappe, c'est ce qui arrive aux Américains en ce moment, ce qu'on appelle la sensitivity readers. Ce sont des sortes de contrôleurs de morale, oui, qui s'établissent et qui vont dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça peut frapper c'est gênant pour des handicapés, c'est gênant pour les jeunes, etc. Vous savez, il y a eu toute une polémique aussi pour un livre qui s'appelait, je crois, c'était sur le la liberté des jeunes qui connaissent qui grandissent, et c'est un livre qui a été publié par Milan, qui a été interdit.
C'est le politiquement correct poussé à l'extrême, qui vous pose problème.
Voilà, et je pense que le rôle de l'éditeur, justement, est là, d'être un peu, justement, le gardien de ces préjugés, de ces enceintes. C'est très difficile, parce que entre tous les réseaux sociaux, la poussée des réseaux sociaux, et puis le temps d'une réflexion, il y a là un espace dangereux, c'est-à-dire qui peut étouffer tout le monde.
Il faut le rappeler, Antoine Gallimard, vous êtes à la tête d'une maison qui est presque une dynastie, entamé par votre grand-père Gaston, dont j'aimerais quand même qu'on entende la voix. C'était en 1953.
À vrai dire, je n'ai pas beaucoup d'idées sur le métier d'éditeur. Je ne suis pas un éditeur. Je suis un homme qui, très jeune, s'était constitué une bibliothèque et qui souhaitait simplement la croître. Je n'ai, pour ainsi dire, publié que des livres que j'avais envie d'y mettre. C'est ce qui m'a orienté vers les jeunes écrivains. Il s'est trouvé que je les publiais aussi pour d'autres, tant mieux, mais ça n'avait jamais été le premier de mes soucis. Il faut aussi, bien entendu, publier des œuvres commerciales pour financer les jeunes auteurs. C'est pourquoi, si j'avais eu alors plus d'expérience, ou si une vie pouvait être recommencée, j'aurais plutôt choisi ou je choisirais la plomberie ou les produits pharmaceutiques pour pouvoir mieux ensuite publier ce qui me plairait et sous la forme qui me plaisait, sans souci commercial. Être épicier pour être mécène. Car pour moi, le seul plaisir du métier d'éditeur est dans la chasse, le dépistage, la révélation, bref, la découverte.
Votre grand-père, Gaston Gallimard, en 1953, délicieuses archives. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre sa voix, qui est pas loin de la vôtre, hein?
Oui, écoutez, j'avais une relation très affectueuse avec mon grand-père. Oui, ça me touche beaucoup. Je pense que rien n'a changé. Je pense que le métier d'éditeur, c'est un métier effectivement où on doit trouver, comme un chasseur, des truffes. C'est l'intérêt du métier, de trouver des nouveaux talents.
Alors il dit qu'il n'est pas éditeur. C'est une formule qui est quand même assez intéressante. C'est ce qu'il vous disait, à vous aussi ?
Oui, en même temps, c'est vrai qu'au départ, ce qu'il aimait, c'est le théâtre. Et il a pensé de travailler dans un théâtre. Il était secrétaire, d'ailleurs, d'un homme qui avait un théâtre. Mais en fait, non, il adorait son métier. Il adorait travailler en équipe. Il a adoré à la fois tout travailler avec Paulan. Il avait un jeu compliqué avec André Gide. Et il avait des passions pour certains de ses collaborateurs, comme Rivière ou comme d'autres. Il pouvait être très très lié à certains. Il a aimé Proust. Il m'a parlé de ses rencontres avec Proust. Un jour, je me souviens, quand on avait reçu Faulkner à l'occasion d'une réception, Faulkner était vraiment avait bu beaucoup, comme Bec Bédé le matin.
Sur France Inter.
Sur France Inter.
Le jeudi.
il avait empêché Faulkner de tomber dans le bassin. Et je veux dire que ce geste, ce bras de mon grand-père empenché Faulkner était très, très, très émouvant.
Vous avez repris le flambeau, les rênes de Gallimard, il y a 30 ans, après votre père Claude, qui avait succédé à Gaston. C'était pas forcément une idée avec laquelle vous avez grandi. C'est arrivé presque malgré vous, non?
Oui, oui, tout à fait. Je pensais pas. Je veux dire, comme tout jeune, on a envie de tracer sa propre voie.
Pourquoi est-ce qu'on vous a choisi, à votre avis?
Je pense que bon, il y a eu une succession d'événements, mais on m'a pas spécialement choisi. Je pense simplement, voilà, moi, j'ai toujours eu une passion pour les collections. J'ai fait une petite collection qui s'appelle L'Imaginaire. Puis longtemps, je me suis occupé d'une autre collection de poches qui s'appelle Folio. Et voilà, et très naturellement, comme j'étais lié avec des gens comme Jean Genet, comme Nathalie Sarroute et d'autres. Et ce que j'aimais dans ce métier, c'est de pouvoir aller justement de Philippe Solers ou de Kundera à Guillotat, d'avoir aussi de jeunes. J'aime beaucoup, là, aujourd'hui, publier des jeunes comme Maïlys de Kerangal ou voilà, ou retrouver un jour, bon, Pascal Quignard. C'est pour moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est le compagnonnage.
En tout cas, vous êtes à la tête aujourd'hui d'un groupe qui possède plusieurs maisons d'édition, dont Gallimard évidemment, mais aussi Flammarion, POL, Mercure de France, Vertical, De Noël, je le disais, Casterman. Quand est-ce que vous avez compris qu'être éditeur, c'était aussi être un homme d'affaires?
Je crois que en fait, on n'a pas trop le choix. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, pour prendre une image maritime, j'aime bien avoir une petite flottille. Et il y a des endroits où on peut pas aller. J'ai eu une grande amitié pour Paul Tchaïkovski-Laurence, qui a disparu en début d'année.
L'éditeur de POL.
L'éditeur de POL, un accident de voiture. Et ce qui est très bien, c'est qu'on voit qu'il pouvait aller, il y avait une sensibilité chez lui. Je veux dire, je trouve qu'il y a un bel écrivain français, Emmanuel Carrère, qui publie, et voilà, et ça me permet indirectement de publier Emmanuel Carrère. Ce qui est bien, c'est effectivement, je veux dire, à l'heure où il y a beaucoup de concentration, où il y a beaucoup d'industrialisation, on parle tout le temps du financement, des gros marchés, il n'y a plus d'édition, les éditeurs prennent plus de risques. Justement, je pense que pour prendre ce risque, c'est d'avoir différents appuis et d'être capable de, à la fois de publier aussi bien, je sais pas, Foucault, on va sortir un livre en septembre sur le mouvement des intellectuels de François Doss. Voilà, c'est d'être un peu, de pas être partout, mais de pouvoir avoir vraiment comme un petit animal, des mille pattes.
Le grand défi du monde de l'édition aujourd'hui pour vous, c'est quoi, Antoine Gallimard?
Il est énorme. Le grand défi pour moi, c'est est-ce que on arrivera toujours à prendre le temps de lire et ne pas être avalé par des machines qui sont fascinantes, comme Netflix. Je crois qu'aujourd'hui, à une époque, on avait une concurrence entre les grands et les petits. Aujourd'hui, notre problème, c'est plus de défendre le livre, d'aimer le livre, d'aimer le temps qu'on a pour soi. Un éditeur, c'est justement vous inviter à tout ce qui est imprévu, à être un peu intempestif. Et le danger pour moi, c'est effectivement tous ces abonnements de Netflix et autres. Je suis pas contre, mais savoir un peu apprendre à gérer son temps.
Vous n'êtes pas abonné à Netflix, vous?
Pour ma fille, oui.
Celle qui n'est pas Netflix dans cette émission et qu'on défend contre toute attente, c'est la culture évidemment et son actualité qui décidément n'a peur de rien et qui se tient en très haute estime. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 14 juin?
Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi?
Pitchfork frappe fort en exclu. Dans Boomerang, on vous révèle que le festival parisien qui installera ses boomers sous la grande halle de la Villette en novembre prochain va annoncer 14 nouveaux noms cet après-midi pour cette 8e édition, la première en partenariat avec France Inter. On pourra notamment compter sur le roi de la pop tricolore Étienne Dao, les jeunes furieux de Bagarre ou le duo de Canadiens sexy de Chroméo, Chaud Cacao. Simple, Basel. La plus prestigieuse foire d'art moderne et contemporain Art Basel commence aujourd'hui à Bâle, en Suisse. Au total, 290 galeries, 35 pays, 4000 artistes représentés. Toutes les stars du milieu sont là, le français Daniel Buren, le chinois Ai Weiwei et même Yoko Ono qui présente une œuvre collaborative. Bâle, c'est de la Bâle.
C'est un des plus bels endroits de Rome, la Villa Médicis, parce que c'est au-dessus, parce qu'il y a une lumière extraordinaire et parce que c'est une maison d'artistes.
Tous les chemins de la création mènent à Rome. La promotion 2018-2019 des pensionnaires de la Villa Médicis vient d'être arrêtée sur 387 candidatures. Le jury a retenu 16 jeunes artistes qui vont avoir un an pour travailler sur leur prochain ouvrage à l'ombre des grands pins plantés par Ingres. Parmi les chanceux, la compositrice Julia Blondeau, le formidable écrivain Miguel Bonnefoy ou l'intense romancière Frédérica Amalia Finkelstein. Enjoy.
Malaika.
Bravo Angélique Kidjo, toujours en exclu ce matin, on peut vous révéler que la chanteuse béninoise Angélique Kidjo est la lauréate du prix de l'artiste citoyen 2018 de l'ADAMI, une récompense qui distingue des artistes qui utilisent leur notoriété, leur pratique pour changer le monde. Auréolée déjà de 8 Grammy Awards, Angélique Kidjo est aussi la créatrice de la fondation Batonga, engagée pour un meilleur accès à l'éducation des jeunes filles africaines. Cœur avec les doigts. Et l'éditeur Antoine Gallimard, invité de Boomerang ce matin, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous recevoir à ce micro, Antoine, pour plusieurs raisons, et notamment parce que, effectivement, cette année a été une année pour le moins mouvementée dans le monde de l'édition, à commencer, vous en parliez en janvier dernier par la disparition de Paul Olchakowski Lawrence, fondateur des éditions POL, racheté par votre groupe. Quel homme est-ce que le milieu de l'édition a perdu pour vous ?
On a perdu un homme qui était généreux, qui aimait ses auteurs et surtout qui avait envie toujours d'aller au-delà. Il n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait. Il voulait toujours progresser, trouver une idée à la fois d'un grand poète américain un peu difficile. C'était un homme curieux et qui aurait aimé sûrement être écrivain. Je pense que, comme mon grand-père, qui surtout ne voulait pas écrire, mais voilà, ils écrivaient et ils travaillaient à travers leurs auteurs.
Vous aussi, vous auriez aimé écrire peut-être ? Vous auriez pu ?
Je ne sais pas. Je pense que quand on est éditeur, en tout cas, on doit certainement renoncer à l'idée de devenir écrivain.
Comment est-ce qu'on remplace un éditeur comme POL ? Comment est-ce qu'on assure la continuité de son esprit, de sa mission ?
Je crois que là, j'ai remplacé Pearl, j'ai proposé à Frédéric Boyer, qui était éditeur aux éditions Bayard, de prendre sa succession. Je pense que, d'une part, c'est quelqu'un qui est de grand talent, très différent. Et j'ai pensé à lui justement, parce qu'à la fois, il y a un compagnonnage, il y a une curiosité, lui est poète. Et je pense qu'il y avait une grande sensibilité en cette maison vers justement des talents poétiques, des talents un peu toujours à la marge.
Mais c'est une maison qui portait quand même ses initiales, POL. Oui, alors, est-ce que POL sans POL, c'est toujours possible ? C'est toujours pareil ?
Je pense que la maison est très forte. Comme la maison Gallimard, c'est vrai que là, il y a toujours un Gallimard, mais on peut imaginer...
Ah, vous avez anticipé ma prochaine question.
On pourrait imaginer que ce ne soit pas Gallimard.
C'est vrai ?
Je veux dire, vous savez, à un moment, quand la pensée de la fondation, du créateur et des gens qui ont créé cette maison est si forte que ça peut continuer pendant des générations, vu qu'ils ont mis là une énergie qui est communicante.
Il y a vos filles, vous ?
Oui, oui, je souhaiterais effectivement, moi je suis la troisième génération, c'est celle normalement qui détruit l'entreprise. je me dis chaque jour, ouf, j'ai évité la faillite. Et donc j'espère bien, effectivement, qu'il y aura une quatrième génération, et j'espère avec mes filles.
Je parlais d'une année mouvementée, Antoine Gallimard, comment ne pas évoquer aussi la mort de Philippe Ross, dont nous avait admirablement parlé sa traductrice, José Camoun, à ce micro. L'amour et la fascination de la France pour cet auteur, dont l'œuvre est récemment passée en Pléiade. Comment est-ce que ça s'explique, à votre avis ? Comment vous l'expliquez, vous ?
Je pense que c'est un homme qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'incision et un besoin de comprendre. À ce niveau-là, je trouve qu'il est un esprit très très français. Ah. Je veux dire entre l'ironie et qu'on peut trouver d'ailleurs chez Kundera ou chez Philippe Solers et puis l'amour de la langue et l'amour de la société. C'est un homme qui justement se pose, ce qui fait la spécificité de la culture française, c'est notre capacité d'autocritique.
Et vous diriez qu'en ce sens, Gallimard est une maison française ?
Je pense que c'est une maison très française. C'est difficile de faire plus. Entre Proust, Camus, Giono...
Ça, votre catalogue, il est pas mal. Ça,
non, mais voilà, je pense que c'est l'esprit français. Je pense que ce qui est bien dans notre maison, c'est justement qu'elle a toujours été contre les écoles de pensée. Il y a des surréalistes, mais c'est pas l'école surréaliste. Il y a eu Nouveau Roman, mais c'est pas l'école du Nouveau Roman. Donc, vraiment, d'échapper à la pensée de ce qui se faucille. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, le journal a été publié, pas chez moi, le journal d'Alain, du philosophe Alain, et on dit, regardez, Alain, il a tenu des propos, c'est vrai, fascisants, antisémites, mais c'est pas une raison pour laquelle il faut plus le lire. Je pense que ce qui est important, c'est justement prendre, avoir ce recul indispensable pour juger les choses. Et ce qui a été aussi malheureux, quand ça soit pour l'histoire de Loti ou pour d'autres, c'est que cette absence de réflexion et cette absence de liberté de penser. L'autre jour, on a eu une petite manifestation à notre porte parce qu'on publiait un livre de Sandra, Petit Conte Nègre pour les enfants des Blancs. Ils étaient quelques-uns à se réunir en disant, voilà, nous rééditions ce livre en collection de poche pour les jeunes, en disant, mais c'est affreux, c'est raciste, c'est complètement fou. Sandra, au contraire, voulait montrer qu'était la littérature en Afrique, que signifiait justement la littérature nègre, la littérature comme Senghor en a parlé et comme d'autres, et inciter justement à ce qu'on reconnaisse que cette littérature, que la culture orale africaine soit mise à l'honneur.
Alors qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous vous enfermez dans votre bureau, vous allez les voir, vous leur parlez, vous dites ce que vous êtes en train de me dire?
Alors, non, mais c'était difficile, parce que de toute façon, ce qu'ils veulent en ce moment, il ne peut pas y avoir de discussion, comme quand il y a eu au moment de l'affaire Céline, on a eu des gens dans notre librairie à Raspail, ils viennent avec une vidéo et ils mettent tout sur Internet. Donc vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous bagarrer directement, on va discuter, c'est impossible, c'est communication contre communication. Donc moi, ce que je fais, je passe aussi dans les réseaux, pourquoi, et relisez Sandra et expliquez.
Moi, je pense que vous avez un profil caché Twitter, Antoine Gallimard, et que vous trollez le monde entier pour expliquer votre pensée.
Je vais essayer de faire comme Trump fait, oui, vous avez raison.
C'est certainement pas, enfin j'espère pas. On va reparler d'émotions littéraires quand même, juste après Gilbert Bécaud, tiens, qui faisait référence à votre best-seller absolu, Un certain Petit Prince de Saint-Exupéry. Le Petit Prince est revenu, 1964. Vous êtes sur France Inter avec Antoine Gallimard. Vous écoutez Boomerang.
Oh, toi de Saint-Exupéry, dans tes royaumes inconnus, où que tu sois, je te le dis, le Petit Prince est revenu. Je l'ai vu ce matin qui jouait sans défense avec le serpenteau qui le mordit jadis. Ouais, le soleil arrivé sur les terres de France et le vent tout levé chantait sur les maïs. Ouais, oh, toi de Saint-Exupéry, dans tes royaumes inconnus, où que tu sois, je te le dis, le Petit Prince, je l'ai vu. Et il cherche partout ta voix et ton visage, il demande partout, l'avez-vous rencontré? Ouais, ce monsieur du désert qui dessinait des cages pour les petits moutons qui veulent tout manger. Ouais, oh, toi de Saint-Exupéry, dans tes royaumes inconnus, où que tu sois, je te le dis, ton petit prince est revenu. Quand il me vit passer, moi couvert de poussière, moi qui venais de près, moi qui n'avais pas faim, non, il m'a simplement dit, monsieur, saurais-tu faire revenir un ami? Quand on en a besoin, dis, oh, toi de Saint-Exupéry, dans tes royaumes inconnus, où que tu sois, je te le dis, ton petit prince est revenu. Tu avais demandé qu'on te prévienne vite si on apercevait l'enfant aux cheveux d'or. Ouais, dépêche-toi, reviens, j'ai peur qu'il ne profite d'un grand vol d'oiseaux blancs pour repartir encore. Ouais, oh, toi de Saint-Exupéry, dans tes royaumes inconnus, prends ton préguet des vols de nuit, reviens car lui est revenu.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il y avait aussi cette chanson, vous vous souvenez, jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Bah, figurez-vous qu'il est plus empereur que petit prince, celui qui me fait face avec son regard redoutable et redouté, dans lequel on distingue pourtant une certaine douceur, une magnanimité, presque une grandeur d'âme, tout à fait auvergnate. Ça doit être notre point commun, son cheveu gris, tout en douceur et générosité, sa façon de se tenir, ça y est, dans son costume rayé et sa chemise rayée également ce matin. Antoine Gallimard, invité de Boomerang, pour parler de son métier d'éditeur et de littérature. Avec quel livre, quels auteurs est-ce que vous avez appris à aimer la littérature, vous ?
Moi, j'ai aimé la littérature en lisant jeune Dostoïevski, une littérature classique, Dostoïevski, Balzac et autres. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est ensuite quand j'ai lu Kundera. Et j'ai adoré les livres de Kundera. Et puis évidemment, jeune aussi, je me suis nourri avec Albert Camus. Etc.
Alors, est-ce que vous ne lisiez que du Gallimard ? Parce que je suppose que votre grand-père et votre père avaient quand même un contrôle sur votre éducation littéraire.
Oui, mais justement, je n'aimais pas ce contrôle, donc j'allais voir ailleurs. Et le problème, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de livres de la maison que des livres d'autres éditeurs. Donc j'allais, comme on habitait près des quais, j'allais souvent sur les quais et faire les petites boutiques sur les quais, et là, de regarder. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, Loti. Où je lisais aussi, j'avais envie de lire des choses qui n'étaient pas bien.
Qui n'étaient pas bien ? Quels étaient les livres licencieux que vous lisiez ?
Non, pas licencieux forcément, mais qui n'étaient pas forcément culturels, je sais pas. Je m'amusais à lire du Guy Descartes, par exemple, où j'aimais beaucoup les policiers de Chandler, tout ça. Ce que j'aimais, c'est quand j'étais jeune et découvert tout seul, c'était de prendre, mais j'avais le soir, quand je faisais mes études, un petit verre de vin et un policier. Et pour moi, c'était rien au-dessus.
Qu'est-ce que c'est pour vous un mauvais livre, Antoine Gallimard ? Et là, c'est autant à l'éditeur qu'au lecteur que je m'adresse.
Pour moi, un mauvais livre, c'est vraiment un livre où il n'y a plus que des liens communs, une écriture qui est insupportable, c'est comme une mauvaise musique, où il n'y a pas de rythme, qu'il n'y a rien. C'est vraiment un livre interchangeable, je veux dire, comme un mauvais film. Et je veux dire, ça doit décourager les gens quand ils lisent un mauvais livre, ils doivent s'abstenir de lire pendant, je pense, pendant un mois. Un mauvais livre, c'est vraiment un livre où il n'y a pas du tout d'écriture.
Vous êtes quel genre de lecteur, vous ? Très dur, justement, ou plutôt bienveillant ?
Non, je suis plutôt bienveillant, j'aime prendre du temps pour lire. Mais ce que j'attends d'un livre, c'est vraiment qui m'épate, qui me surprenne. Un livre qui vous emporte quelque part, un livre qui vous prend par la main et qui vous emmène là où on ne pourrait pas aller sans lui. Borges, quand il écrivait, il avait toujours une chaise vide à côté de lui et il disait, cette chaise vide, c'est pour le lecteur qui va l'occuper. Voilà. Et je pense aussi que parfois on devrait aussi penser, non pas à faire plaisir au lecteur, mais dire au lecteur, de visiter ces royaumes inconnus que sont l'imaginaire des nouveaux écrivains.
Vous avez choisi de nous faire entendre une voix ce matin, c'est naturellement la voix d'Albert Camus.
Tous mes personnages m'intéressent et j'essaie de les rendre également légitimes. La tragédie n'est rien d'autre que l'affrontement de deux ou plusieurs forces égales en raison. S'il y a inégalité, il y a mélodrame. Je pense donc pouvoir peindre avec équité des caractères tels que je les trouve en moi et aussi chez les autres. Par bonheur, je n'ai pas que moi à raconter. Chacune de mes pièces est d'ailleurs écrite dans une manière différente. Elles offrent des univers différents, même si dans chacun d'entre eux, je poursuis toujours la même recherche.
Camus, en 1951, à la télévision, 2 ans après la publication de sa pièce Les Justes. Pourquoi sa voix ? Pourquoi, au moment de l'apparition des Justes, justement, Antoine Gallimard ? Parce que c'est ça que vous avez choisi.
Oui, je dirais parce que ce livre est assez exceptionnel à l'époque où on voit justement à la fois le terrorisme, les difficultés de l'individu dans la société. Et il est à l'écoute d'une voix et je veux dire, c'est remarquable. Je dirais, vous voyez par exemple, Paulhan disait que il faut faire attention, les écrivains ne sont pas des surhommes. Camus n'est pas un surhomme, c'est comme un frère aîné. Et sa voix est là pour nous parler de choses de manière très simple, de ce que nous sommes, sans jouer l'héroïsme et avec les valeurs qui sont les nôtres, de la démocratie et du respect de l'autre.
Vous le relisez en ce moment ?
Oui, je le relis et j'ai beaucoup apprécié grâce à Catherine Camus, on a pu publier les lettres d'amour entre Albert Camus et cette comédienne avec qui il a une relation forte.
Marie Cazares.
Marie Cazares. Je trouve que c'est une merveilleuse correspondance.
Alors c'est le Camus amoureux que vous aimez autant que le Camus.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que tout Camus a une relation tellement humaine, tellement chaleureuse que, quelle que soit la discipline qu'il aborde, il est séduisant.
Allez, dernière question, Antoine Gallimard. Vous avez deux prix Nobel français, ce qui est quand même pas mal, Jean-Marie Gustave Le Clézio et Patrick Modiano. Quel sera le prochain? Si vous deviez en choisir un, ou plutôt, s'il y en a un dont vous vous dites peut-être l'Académie suédoise, si
non,
elle
ce qu'on a tous regretté, c'est que dans les Nobel que la maison publique, qui ne sont pas forcément français, c'est que Philippe Roth ne l'ait pas eu.
Ouais.
Je trouve aussi que, voilà, que Kundera le méritait. Comme, je sais pas, bon, c'est vrai qu'on n'est pas frais ce prix. En France, on a de la chance. On a eu quand même un certain nombre de prix Nobel. Bon, évidemment, il y a. En particulier Camus, qui était et Sartre qui l'avait refusé. Je pense que aujourd'hui, on veut y avoir aussi ce que devient le Nobel, puisqu'ils sont quand même, ils ont quand même, en ce moment, beaucoup d'agitation interne.
Il y en aura d'autres, sans doute. Et moi, j'aimerais bien que ce soit Annie Arnaud, mais ça, c'est entre nous deux. Merci beaucoup, Antoine Gallimard, d'être venu faire un tour dans cette émission. Il y aura encore tant à dire. Je rappelle quand même que les mémoires, tiens, de Simone de Beauvoir ont paru en Pléiade. Ça vaut quand même la peine d'être souligné. Un autre conseil, Gallimard?
Oui, je pense que aussi l'album que nous publions à l'occasion de la Pléiade, pardon, je fais pas de la publicité, mais l'album aussi est très intéressant. L'album Pléiade sur Simone de Beauvoir.
Alors l'album également, tout de suite les médias, Sonia De Villers, juste après ça.